les interventions du psychanalyste Jacques Lacan dans les médias ont été à chaque fois rares et exceptionnelles. Hier, vous avez pu écouter son petit discours à l'ORTF de 1966. Ce matin et chaque matin jusqu'à vendredi, vous entendrez dans cette série des chemins de la connaissance de longs extraits de radiophonie. Radiophonie, c'est le titre de l'entretien que Jacques Lacan a accepté de donner à la radio-télévision belge en juin 1970. L'émission avait été proposée à Lacan par un brillant universitaire belge, Robert Georgin, et voici ce qu'au mois d'avril de la même année, Lacan disait de cet entretien dans son séminaire « L'envers de la psychanalyse », édition du Seuil, page 152, je cite. « Il se trouve que j'ai été sollicité, ce n'est pas la première fois, c'est une sollicitation extensive, de répondre à la radio belge, et ce, par un homme qui, à vrai dire, s'est attiré mon estime, Monsieur Georgin, de m'avoir remis un long texte qui donne au moins cette preuve que lui, contrairement à bien d'autres, a lu mes écrits. Il en a, mon Dieu, tiré ce qu'il a pu, mais ce n'est pas rien à tout prendre. Véritablement, enfin, j'étais plutôt flatté. Ce n'est pas, certes, pour me donner plus de penchant à cet exercice, qui consiste à se faire enregistrer à la radio, ça perd toujours beaucoup de temps. François Regnault, bonjour. Vous êtes un homme de théâtre, vous enseignez la diction au Conservatoire National, mais vous êtes également maître de conférences au département de psychanalyse de Paris 8 et l'un des fondateurs des Cahiers pour l'analyse. Alors, dans l'archive que nous allons entendre aujourd'hui, Lacan répond à une question de Robert Georgin sur la linguistique, peut-être parce que l'apport fondamental de Lacan à la psychanalyse est en effet d'avoir relu Freud à la lumière de Saussure.
Oui, dans la réponse à Georgin, il est clair qu'il est question essentiellement de Saussure et de la linguistique. Je voulais remarquer que Lacan avait appelé ça radiophonie, que ses écrits, il les a appelés écrits. C'est paru en 66. Que radiophonie, il l'appelait radiophonie.
Et que télévision ?
Il l'a rappelé radiophonie et télévision, il l'a appelé télévision. C'est-à-dire, il est allé, en fuyant toute métaphore, au terme le plus propre pour désigner la chose dont il parlait. Mais du coup, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il a transformé le nom commun en nom propre, puisque maintenant on dit dans télévision, dans radiophonie, dans les écrits, Lacan dit ceci, et finalement ce sont comme des noms propres. Alors dans radiophonie, il y a évidemment phonie. C'est Lacan qui a inventé aussi la voix comme objet de la psychanalyse. Tout le monde a toujours rêvé sur la voix de l'être aimé, la voix du tyran, la voix de tout ce qu'on veut. Mais ici, la voix comme objet à cause du désir, c'est évidemment une invention de Lacan. Donc dans radiophonie, il y insiste, il y a phonie et pas seulement radio. Mais il insiste aussi sur radio parce que je remarque qu'il y a des allusions que l'auditeur entendra à la télépathie. Comme si la radio était venue corriger la télépathie, c'est-à-dire la télépathie, on communique à distance, sans se parler. Et Freud a été intéressé à la télépathie, et Lacan y fait allusion dans cette première réponse. Mais avec la radio, on communique à distance, mais en se parlant. Et donc il note le phénomène, et il l'intègre évidemment à l'ensemble de la question sur la communication, et il fait une critique de la communication comme il l'a toujours fait, puisque la première réponse est finalement, on pourrait appeler ça, critique de la communication. Juste une autre note, l'auditeur aura peut-être l'impression que c'est difficile à comprendre. Alors, Lacan disait volontiers, ne vous hâtez pas de comprendre, et notamment dans les cas cliniques, ne vous hâtez pas de comprendre le patient, ne vous hâtez pas de comprendre le fou, ne vous hâtez pas de comprendre le malade, ne croyez pas que vous allez comprendre tout de suite.
Ne vous accrochez pas au sens.
Oui, ne vous accrochez pas au sens et ne croyez pas que vous allez tout comprendre tout de suite. Et Michel Foucault m'avait fait une remarque à propos de télévision, je crois. Il m'avait dit, mais il a raison d'être aussi difficile lorsqu'il s'adresse à tout le monde ou aux médias, puisqu'il a, statistiquement parlant, d'autant plus de chances qu'il y ait de gens qui le comprennent. Et ça, c'est un paradoxe qui va à l'encontre de la communication, puisque dans la communication, on a l'impression qu'il faut parler plus simplement dès qu'on parle à plus de gens, c'est-à-dire que la foule est idiote et que les disciples sont au contraire très intelligents. C'est le contraire, hein, c'est le contraire. D'une certaine façon, les gens qui sont autour de vous ne comprendront rien, Et dans la foule immense à qui on s'adresse, on ne peut pas la mesurer, on a d'autant plus de chances qu'il y aura deux ou trois personnes qui vous comprendront.
Ça fait le tri donc.
Oui, oui, oui. Et c'est un paradoxe, on pourrait appeler un paradoxe de la communication, dans la mesure où la communication est elle-même paradoxale. Alors, c'est un paradoxe de la communication parce que, comme vous y faisiez allusion, la découverte de Saussure, c'est évidemment, pour Lacan, la barre qui sépare ce qu'on pense de ce qu'on dit, pour parler comme ça, c'est-à-dire le signifié du signifiant. Alors Saussure imagine qu'on ne pourrait pas penser sans passer par des signifiants, c'est-à-dire par la parole. Lacan a renversé ce rapport. Il a pensé que le signifiant a barre, c'est le cas de le dire, sur le signifié, ou si vous voulez, ce qu'on dit a barre sur ce qu'on pense. Par conséquent, ce qu'on pense est entièrement tributaire de ce qu'on dit. Et oublier que l'homme parle avant de penser, c'est le crime de la philosophie pour Lacan. C'est l'erreur ou c'est l'illusion radicale de la philosophie. La psychanalyse ayant découvert qu'on parlait avant de penser et qu'on parlait peut-être sans jamais penser d'ailleurs, que tout était pour finir parole. D'ailleurs, à la fin, l'allusion à mai 68 est une allusion au, je pense, à « les murs ont la parole ». C'est certainement à ça qu'il fait allusion quand il dit « il ne s'agit pas de communication qui aurait un sens dans les événements de mai 68, il s'agit de déplacement de discours ».
Ce que vous dites, François Regnault, me fait penser à cette phrase des évangiles « que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent ».
Oui, en y ajoutant qu'il dit un jour que le traumatisme de l'homme, dont l'homme est atteint, ça n'est pas... Vous savez, Rank, disciple de Freud, avait cru que c'était le traumatisme de la naissance, et Freud y fait souvent allusion, en pensant d'ailleurs que Rank n'a pas tout à fait raison sur ce point, et Freud croit tantôt et tantôt ne croit pas au traumatisme de la naissance. Mais il y a une déclaration de Lacan en disant non, le traumatisme de l'homme, c'est qu'il naît malentendant, et que le malentendu est l'essence même du langage. Pour le reste, je voudrais juste... Puisque je m'interdis de commenter ce que je suis pourtant en train de faire, donc vous voyez, paradoxe, deux ou trois allusions qui sont dans le texte de Lacan. Bon, celle à Saussure, les allusions à Saussure sont facilement repérables, elles renvoient au cours de linguistique générale. Il y a une allusion aux stoïciens. Pourquoi ? Parce que c'est aux stoïciens que Saussure a emprunté signifiant signifié et qu'on a emprunté ensuite la catégorie de référent, c'est-à-dire la chose à laquelle on renvoie. Or, précisément, Lacan exclut ici la chose en lui substituant le concept de L apostrophe à chose, c'est-à-dire, si on veut, la non-chose. Autrement dit, le langage ne renvoie à aucune réalité, on pourrait dire les choses aussi platement que cela. Et c'est l'allusion aux stoïciens, il y en a deux, il y en a une autre un peu plus loin, il dit « ils ne sont pas allés très loin, nouvelle critique de la philosophie, puisque leur raisonnement se borne, ou plutôt que font-ils avec les raisonnements qu'ils citent, s'il fait jour, il fait clair, or il fait jour, donc il fait clair. » Et ce sont en effet des raisonnements des stoïciens, dont la logique stoïcienne est friande, et qui sont tout à fait analysés par les stoïciens concernant la matérialité des propositions. Et donc ça, c'est une allusion à la logique stoïcienne. Donc il y a deux allusions aux stoïciens, à la linguistique stoïcienne, signifiant, signifié, référent, et à la logique stoïcienne, implication matérielle ou implication formelle dans les propositions.
Et puis François Regnault, il fait allusion, comme souvent, à Socrate également.
Il y a une autre allusion à Socrate où il dit « tous les hommes sont mortels », et il fait allusion, pour éclairer le point, il dit « les commentateurs ont la manie de continuer en disant « tous les hommes sont mortels, or Socrate est un homme, donc Socrate est mortel ». C'est le syllogisme auquel il fait allusion, mais il explique que le syllogisme n'est pas dans Aristote. Et on peut éclairer ce point de la façon suivante. Pourquoi il n'est pas dans Aristote? Parce que Aristote veut, dans les différentes propositions d'un syllogisme, qu'on puisse les retourner. Alors, vous pouvez dire « tous les hommes sont mortels » et vous pouvez dire « quelques mortels sont des hommes ». Mais vous ne pouvez pas dire « Socrate est un homme », « un homme et Socrate », ça ne fonctionne pas du tout de la même façon. Vous pourrez dire, il y a quelques hommes qui sont grecs, il y a quelques hommes qui sont athéniens, mais il y a quelques hommes qui sont Socrate. Non, vous tombez sur ce que Aristote appelle une proposition singulière. En réalité, il n'y a qu'un homme qui est Socrate. Donc si on ne peut pas convertir l'une des prémices du syllogisme, on ne peut pas faire de syllogisme. Donc on ne fait pas de syllogisme avec des propositions singulières. Et si on développait l'idée, on retrouverait de grands développements de Lacan sur les propositions singulières, y compris sur le cas clinique, sur le cas singulier d'un individu qui ne rentre pas dans la proposition générale. Autrement dit, les propositions particulières réduites aux propositions singulières font objection aux propositions universelles. Donc, je pense que c'est à ça qu'il fait allusion.
Et puis, François Regnault, on sait que Lacan était un très grand lecteur, un lecteur très érudit par ailleurs. Il fait une allusion à un linguiste, Baudouin de Courtenay. C'est un nom français
Oui, mais il était polonais. Jacobson en parle dans La charpente phonique du langage et dit « Le polonais Jan Baudouin de Courtenay, 1845-1929, etc. »
Et je sais que vous avez quelques connaissances sur ce monsieur Baudouin de Courtenay.
Non, et je me suis référé à un texte de Jacobson parce que... L'argument de Lacan est si on n'avait pas disposé de l'inconscient, si on n'avait pas disposé de la psychanalyse plutôt, on n'aurait pas trouvé la linguistique, on en serait resté à Baudouin de Courtenay. Mais ça n'est pas une critique de Baudouin de Courtenay, et je voudrais lire un texte de Jacobson sur Baudouin de Courtenay qui dit ceci. Il parle de la recherche de Baudouin de Courtenay sur ce qui est invariant dans ce qu'on dit dans la parole. Quels sont les atomes de la parole? Et qu'est-ce qui est invariant et qu'est-ce qui, au contraire, varie? Et alors, je cite, ça se trouve dans La charpente phonique du langage de Roman Jacobson et Linda Waugh, W-A-U-G-H. Cette conception correspond de très près aux objectifs généraux définis par Baudouin de Courtenay, d'abord dans sa leçon introductive qui fut publiée à la même époque que le texte de Klein, puis dans le vaste programme des cours de linguistique qu'il donna pour l'essentiel au cours des 10 années suivantes et qui furent publiés dans ces mêmes bulletins de l'université de Kazan.